Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit, confisse-t-il. Eh bien, chers frères, en France, nous solennisons aujourd'hui, en ce deuxième dimanche de mai, notre héroïne nationale, après Notre-Dame, 15 août. Il y a deux autres femmes qui sont les patronnes secondaires de la France, Sainte Jeanne d'Arc et Sainte Thérèse de l'Enfant Jésus. Et Sainte Thérèse de l'Enfant Jésus disait que Sainte Jeanne d'Arc était sa sœur. Comme quoi, les siècles importent peu. S'il y a 4 siècles entre l'une et l'autre, elles sont toutes deux sœurs, pratiquement du même âge. Sainte Thérèse de l'Enfant Jésus qui meurt à 24 ans et Sainte Jeanne d'Arc à 19. Donc des jeunes femmes. Mais quelle femme pour Dieu les hommes. Quelles leçons même pour les hommes. Quelle stabilité dans ces femmes qui ont, bien sûr, la grâce et la gloire maintenant des autels et qui puisent leur force et leur courage et leur vertu et leur stabilité dans Notre-Dame. Ainsi, mes bien chers frères, 3 femmes sont à l'honneur dans notre pays. C'est pour nous bien un encouragement, alors que notre pays est bien malmené par des hommes depuis si longtemps, et bien que les hommes et les femmes, quels qu'ils soient, prennent courage et prennent racine dans les vertus de ces 3 éminentes femmes, Notre-Dame, l'Immaculée, Sainte Thérèse l'Enfant Jésus et Sainte Jeanne d'Arc, dont nous fêtons aujourd'hui la mémoire. Et la solennité en ce deuxième dimanche du mois de mai. Le Seuil de la Terre, il y a 12 ans, 13 ans, a publié un numéro particulier, c'est le numéro 83, sur Sainte Jeanne d'Arc. Et dans ce numéro, tout livret consacré à Sainte Jeanne d'Arc, de très beaux articles, je recommande vraiment la lecture et la méditation, c'est plus qu'une lecture, la méditation de ces 6 beaux articles. Un père capucin, il y a un siècle, 105 ans, avait 106 ans, avait publié, au lendemain de sa canonisation, un très beau texte sur les vertus de Sainte Jeanne d'Arc. Il annonce quelques petites pépites, pourrait-on dire, de ce texte à la louange, à la gloire, à l'honneur de Sainte Jeanne d'Arc. Et il commence en nommant sa piété. Voilà. Elle brille dans sa jeune vie, dans sa courte vie de 19 ans, de ce don de piété. Tous ses contemporains disent, donc à Dorémy, au pays natal, qui fut le sien en Lorraine, que ce fut une petite fille modèle par sa piété, par le sens de Dieu. Et ceci, elle l'a acquis avec ses parents, de bons parents chrétiens qui lui apprennent très tôt à prier, à se mettre en présence du bon Dieu. Un jeune homme, qui la vit souvent travailler au champ, rapporte qu'elle aimait à se séparer de ses compagnes pour parler à Dieu. Bien sûr, la compagnie est importante, l'amitié, on vit en société, mais elle sait parler à Dieu. Cela semblait étrange et faisait sourire son entourage. Mais elle n'a pas de respect humain. Et durant sa courte vie, elle le montre avec ses soldats, ses gens d'armes, qui sont parfois peu pieux, qu'elle est elle-même pieuse. Elle n'a pas de respect humain et elle se met en prière. Avant chaque combat, elle ira se confesser. Elle ira à la messe et communiera. Et par son exemple, elle entraîne les gendarmes, les gens armés, à faire de même. Et elle dira bien, ce sont les péchés qui vont perdre les guerres, les batailles. Donc c'est la grâce qui les fait gagner. Quelle leçon aussi pour nous-mêmes, pour toutes nos batailles spirituelles que nous avons menées. Chérissons cette grâce sanctifiante. Ce sont les péchés qui font perdre les batailles. Et si elle remporta beaucoup de batailles, c'est grâce à la grâce. C'est grâce à cette grâce sanctifiante dont elle était plus que revêtue, elle en vivait. Et aussi, ces gens armés qui suivaient l'exemple. Donc, une grande piété. C'est le mois de mai, en ce moment, donc mois de Marie. Et c'est l'occasion pour relever également cette piété envers Notre-Dame, sa dévotion envers Notre-Dame. Un enfant de cœur qui, il la voit, parfois les enfants de cœur ne sont pas toujours extrêmement attentifs, mais là c'est une distraction qui lui porta secours à cet enfant de cœur. Il rapporte que justement il avait remarqué Jeanne. Il la surveille et reste tellement frappé de son attitude recueillie que, 27 ans plus tard, devenu chanoine, Jean le Fumeux, en deux mots, le Fumeux, déposera, sous forme du serment, les détails qui précèdent et dira combien il a été touché de l'angélique piété de la vertueuse jeune fille. Elle prie la Sainte Vierge. Elle prie la Sainte Vierge. Dès son début de séjour à Vaucouleurs, elle choisit la chapelle Sainte-Marie pour y accomplir ses exercices de dévotion. C'était en plein hiver, et le froid rigoureux n'arrête point sa piété filiale. Elle descend à la crypte dès le matin et se met en prière à l'autel de Marie. C'est là qu'elle prendra la force pour ses combats à venir, Notre-Dame. Tantôt, elle était le front prosterné sur la dalle du sanctuaire, tantôt agenouillée, les mains jointes, les yeux levés vers le ciel. Des gens en forme de statue, si vous voulez, mais une statue vivante et qui attirait le regard de ceux qui la contemplaient. Ce n'était pas seulement une distraction, c'était même une contemplation. Et ceux qui regardaient cette jeune Vierge prier étaient attirés à l'imiter. Quel exemple. Parmi les choses les plus importantes apprises sur les genoux de sa mère, c'est l'Ave Maria qu'elle prononce. Sainte Jeanne d'Arc priera beaucoup le chapelet. Elle brille par l'obéissance. L'archange Saint-Michel, lui apparaissant, lui dira « Va, fille de Dieu, va en France, il le faut. » Et Sainte Jeanne n'hésite pas un instant, malgré les nombreuses difficultés qu'elle prévoit et qui ne tarderont pas à surgir devant elle. Elle s'agenouille avec docilité en faisant cette prière « Je suis prête. » Indiquez-moi les moyens. Quand le moment sera venu, je partirai. Une grande obéissance de cette jeune Vierge qui est prête à faire tout ce que le bon Dieu, par Saint-Michel, archange, lui demandera. Des choses apparemment impossibles. Elle qui ne connaît ni A ni B, elle ne sait pas chevaucher, et les personnes diront, elle chevauche comme si elle avait fait l'école de Saumur, l'école de cavalerie. À l'époque, ça n'existe pas, je ne sais pas. En tout cas, elle chevauche comme un valeureux capitaine. Et pendant des heures, avec dextérité, elle fait aussi l'admiration. Elle ne sait rien, elle sait tout. Illuminée, éclairée, instruite par ses voix, Saint-Michel Archange, Sainte-Catherine, Sainte-Marguerite, les deux martyrs, et puis le bon Dieu qui la guide. Mais elle obéit en tout point, à ce que le bon Dieu lui dicte par l'entremise de ses causes secondes, les anges, qui vont la protéger. Durant toute son épopée, l'épopée de Jeanne, quelle grandeur. Elle a horreur du blasphème. En sa présence, on ne pêche pas. On ne parle que en bien de Dieu, des saints et des saintes. Oui. Elle est tellement lumineuse, tellement sainte qu'on respecte ça et sa personne et le langage qu'on prononce en sa présence. Un jour que quelqu'un jura honteusement, elle le reprend. Elle a le courage de le reprendre. Elle courut vers lui, le prit par le cou et lui dit « Ah, maître, osez-vous bien renier notre sire et créateur? En nom Dieu, vous vous en dédirez avant que je parte d'ici. » Donc, séance tenante. Elle demande préparation. Immédiatement. Ainsi pressé, le Seigneur se repentit du triste exemple qu'il avait donné et promit de se corriger. Pour ces gaillards, ce n'était pas forcément facile. Ils avaient une habitude mauvaise hein, de blasphémer, de parler mal des choses saintes. Et donc, il promet de se corriger. Peut-être, on peut y arriver tout de suite. Mais en tout cas, il promet de se corriger. Ça, c'est bien. Son humilité, grande humilité, hein, qui est la racine de toutes les vertus chrétiennes, et Sainte Jeanne d'Arc, pour Sainte Jeanne d'Arc, il n'y a pas d'exception à cette règle, l'humilité. Publiquement et secrètement, elle converse avec gens d'église, gens de dévotion, gens de guerre, femmes, veuves et autres. Or, en elle, on ne trouve point de mal, mais que bien humilité, honnêteté et simplesse. Donc, simplicité. Elle a traité avec les grands du royaume, même le roi, le dauphin, futur Charles VII, mais elle ne désire que l'humilité, l'effacement. Elle le dira bien, ah, si je pouvais retourner à ma quenouille, fidèle à laine, et avec mes brebis, mes moutons, à Domrémy. Mais Dieu la destine à autre chose. Mais elle ne soupire que de revenir à Domrémy, être effacée, oubliée de tous. Mais elle obéit aux voix de Dieu, jusqu'à ce que le dauphin soit enfin sacré à Reims. Elle a un amour profond pour la Sainte Eucharistie. Dès qu'elle peut, elle assiste à la messe. Elle communie. Et quand elle ne peut pas communier, elle communie de façon, spirituelle. En prison, notamment, elle ne pourra pas, comme elle voudrait, avoir la Sainte Messe. Alors, elle fait des communions spirituelles. Avant d'engager un combat, un siège difficile, elle demande qu'on célèbre le Saint Sacrifice et communie pieusement à la vue de tous. Parfois, des hommes d'armes, entraînés par son exemple, bravent tout respect humain et s'agenouillent près d'elle au banquet divin. C'est ainsi qu'on put voir, le 15 août 1429, durant la messe dite en plein air devant les troupes royales, le duc d'Alençon et le comte de Clermont accompagnaient la pucelle à la table sainte. Un bel exemple des grands du royaume qui communient avec Sainte Jeanne d'Arc. Un trait bien touchant fit voir à ses juges, hélas sans les émouvoir, que l'angélique prisonnière qu'ils éloignaient des sacrements ne vivait néanmoins que pour Jésus-Christ. À la suite d'une séance publique, Jeanne pria Massieu de lui dire si le Saint-Sacrement était conservé dans la chapelle qu'elle rencontrait sur le trajet parcouru de son cachot à la salle des parlements. L'homme ayant donné une réponse affirmative, elle lui demanda l'autorisation de s'arrêter à la porte du lieu saint pour y prier et y adorer le Sauveur Jésus. L'huissier permit la chose. Et aussitôt, l'on vit la pieuse enfant s'agenouiller et se plonger dans une adoration profonde. La dernière communion qu'elle fit, la voici. C'est avec une dévotion admirable et touchante que Jeanne reçoit la Sainte Eucharistie. Elle verse des larmes de joie en retrouvant celui dont elle a été privée si longtemps. Elle ne peut contenir les élans de son cœur. Elle élève la voix et dit à Jésus de douces et naïves prières. Et les témoins de ce colloque angélique, très émus et profondément édifiés, ne purent retenir leurs larmes. L'exemple d'une communion et d'une femme qui, avant de mourir, va communier. Bien sûr, il y a la grande pureté de cette jeune femme. Deux siècles après sa mort, le poète anglais Shakespeare s'en fait l'écho dans son drame sur le roi Henri VI. Voici ce qu'il dit. « Jeanne, la mal jugée, a été vierge, et dès sa plus tendre enfance, chaste et immaculée dans toutes ses pensées, son sang virginal, répandu par vous, criera vengeance aux portes du ciel. » Une très grande charité a traversé sa courte vie. Dans ses campagnes, elle se montre bonne et généreuse, aimable et bienveillante envers tous, mais surtout envers ceux qui pleurent et qui souffrent. Voilà, on voit sa compassion. Comme notre Seigneur Jésus-Christ, ému pour les pauvres, ceux qui pleurent, il est ému de compassion. Sa charité va s'étendre jusqu'à ses ennemis. Ça, c'est de l'héroïsme. Elle voudrait avant tout éviter l'effusion du sang. Et c'est pour cela qu'elle envoie aux Anglais plusieurs messagers. Elle-même ne craint pas d'approcher des remparts et de crier aux envahisseurs de la part de Dieu qu'ils doivent retourner dans leur pays. Autrement, elle se verra contrainte de leur livrer bataille et d'attaquer en pièces. Ah oui, ça c'est sûr. Mais d'abord, elle les semonce. Repartez chez vous, sinon ça finira mal pour vous. C'est ce qui s'est passé. Mais d'abord, elle les avertit. Quelle charité! Quelle miséricorde! Quelle miséricorde! Après la victoire de Pathé, dans l'Odyssée, nous sommes à Chartres, Pathé, un soldat français ayant violemment frappé à la tête un malheureux prisonnier, celui-ci tomba sans connaissance. Alors, Jeanne mit pied à terre, et ranima de son mieux l'infortuné. Mais comme il était mortellement blessé, elle l'amena à se confesser. Durant qu'elle le soutenait, elle le consolait avec bonté, avec la charité. Ainsi, elle a pu gagner une âme pour le ciel, un ennemi, mais qui allait mourir. Et au ciel, il n'y a plus d'Anglais, ni de Français, ni quoi que ce soit, il n'y a que des saints. Peu importe la nationalité, voilà, c'est des saints qu'elle voulait voir au ciel, et pas des gens qui brûlaient en enfer. Une grande foi, la foi a animé toute sa courte vie, encore une fois, 19 ans, c'est peu de temps, mais elle a parcouru le programme que Dieu lui destinait en si peu de temps. Et avec panache, avec brio, avec sainteté. Voilà ce qu'elle dit sur la foi qui l'anime. Je vous certifie que je ne voudrais rien faire ou dire contre la foi chrétienne. Si j'avais fait ou dit quoi que ce soit, s'il y avait sur mon corps quelque chose que les clercs puissent dire contraire à la foi chrétienne, que notre Seigneur a établie, je ne voudrais pas le soutenir, mais je le repousserais. L'Église, je l'aime, et la voudrais soutenir de tout mon pouvoir pour notre foi chrétienne. Le courage dans ses combats. Donc c'est la force qui est persévérante, très persévérante, un courage extraordinaire. Au siège de Jargeau, les trompettes sonnent, on crie de toutes parts, « À l'assaut, à l'assaut !» Jeanne interpelle le duc d'Alençon, celui qui avait communié avec elle. En avant, noble sire, en avant, celui-ci hésite. Alors Jeanne lui répliquait, « Ah, mon beau duc, aurais-tu peur ?» Elle le tutoie. Elle est brave. Un duc tutoyé. Il faut l'amener un petit peu à la force, ce brave homme. C'est brave, pas très brave en ce moment. « Ah, bon beau duc, tu as peur. Ne sais-tu pas que j'ai promis à ta femme de te ramener sain et sauf ?» Tout le monde s'élance avec impétuosité. La vaillante guerrière, frappée à la tête d'un énorme projectile, roule dans le fossé. Mais se relevant aussitôt, elle excite ses hommes d'armes avec plus d'ardeur que jamais. « Amis, amis, suis aux Anglais, courage en avant, suis aux Anglais !» L'armée entière se porte au rempart, la ville est prise en quelques minutes. Quel courage, quelle force! On aurait besoin de femmes comme ça de nos jours, qui savent galvaniser les hommes, ou leurs hommes aussi. La patience est une grande vertu chez Jeanne d'Arc. Quand elle est trop affligée, parce qu'on n'ajoute pas foi à ce qu'elle annonce de la part de Dieu, elle se met en prière et se tient doucement à notre Seigneur Jésus-Christ. Alors une voix se fait entendre, « Va, fille de Dieu, va, je viendrai à ton aide. » Elle est humaine aussi, elle peut se décourager. Elle n'est pas comme Notre-Dame, elle n'est pas immaculée. Donc elle a... Et c'est très encourageant aussi de voir que cette jeune femme a eu des faiblesses, des fragilités, découragement partiel. Eh bien, elle est ranimée par ses voix. Va, fille de Dieu. Et alors, sa patience est inaltérable. On raconte que, durant le siège de Troyes, un franciscain, frère Richard, sortit de la ville, muni d'un sauf-conduit, et s'en vint au camp apporter un message. Du plus loin, tel qu'il aperçut l'héroïne, il se mit à faire main signe de croix et à lui jeter de l'eau bénite. Jeanne ne s'irrita point de se voir traitée comme une sorcière, mais elle dit gaiement aux religieux, « Approchez, approchez, mon frère, approchez, hardiment, je ne m'envolerai pas. » Quelle simplicité aussi. Quelle bonhomie. Frère Richard fut sans doute édifié de la conversation qu'il eut avec la sainte jeune fille, car en la visitant une seconde fois, il n'usa plus d'eau bénite, mais il fléchit les joues devant elle. Ça, c'est fort. Elle n'est plus une sorcière, mais il s'agenouille, voyant en elle une sainte et non plus un démon. Eh bien, chers frères, prions sainte Jeanne d'Arc. Et dans son martyr, bon, l'Église n'a pas honoré qu'un martyr, on l'a fait en blanc, mais elle a subi le martyr. Et il y a un parallèle, dit par le père Hérol. Le père Hérol fut le grand biographe au XXe siècle de sainte Jeanne d'Arc. La mort de notre Seigneur Jésus-Christ et la mort de sainte Jeanne d'Arc. Le centurion dira, vraiment, celui-ci était le Fils de Dieu. Et les Anglais, qui ont brûlé sainte Jeanne d'Arc, diront en se frappant la poitrine et plein de larmes, nous avons brûlé une sainte. La reconnaissance, vous voyez, par l'ennemi, comme par la croix, le centurion qui est un Romain, qui est un païen, qui va se convertir, mais et bien aussi là l'Anglais qui dit nous avons brûlé une sainte. Ces derniers mots seront Jésus, Marie. Et son cœur ne fut pas consumé. Tout son corps fut consumé, mais son cœur ne le fut pas. Il fut jeté dans la Seine. Prions sainte Jeanne d'Arc. Nous avons besoin de cette héroïne dans nos temps si misérables, où l'espérance est bien sombre. Le ciel est bas, le soleil ne brille plus. Et nous avons bien des raisons de prier nos saintes, nos héroïnes, Sainte Thérèse d'Enfant Jésus, Sainte Jeanne d'Arc et Notre-Dame, Reine de France. Prions ces trois saintes, surtout bien sûr l'Immaculée, mais aussi ces deux patronnes secondaires, pour que le bon Dieu voie nos prières, nos supplications, nos lamentations. Les saints intercèdent toujours pour nous. Ils ne sont pas... ils sont vivants. Ne les laissons pas au chômage. Prions-les avec ardeur pour que le bon Dieu sauve notre pauvre pays de toutes les misères présentes et à venir. Ainsi soit-il. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit, ainsi soit-il.